Levée de rideau est au Off d'Avignon du 4 au 25 juillet 2026. Venez nombreux, nous écoutons acteurs, actrices, metteurs en scène. Vive le théâtre! Bonjour, bonjour à tous. Dans ce dernier levée de rideau consacré au Festival Off 2026, encore trois spectacles à vous conseiller, à vous proposer. Pourquoi je n'ai jamais été heureux en amour, au Théâtre du Roi René à 15h05, Mécanique d'une famille à l'Oriflamme à 17h35, un sujet lourd sur les enfants volés d'Argentine, et Hubris au Roseau Teinturier à 14h55, de l'Antiquité, mais très actuelle dans la démesure. Bonjour Patrick Massia.
Bonjour Sylviane, merci de m'accueillir.
Ah ben, je vous en prie. Donc, vous jouez à Avignon, Pourquoi je n'ai jamais été heureux en amour, que c'est triste tout cela. C'est une pièce drôle ou c'est une pièce triste?
Non, c'est une pièce très drôle, vous avez bien compris, comme a dit Gilles Costas dans son article, le titre, on l'a bien compris, est une manière de déguiser la vie avec des masques. Et puis en plus, c'est un point d'exclamation, c'est pas un point d'interrogation voilà. À la fin de la phrase, ça veut dire qu'on n'a peut-être pas les réponses. Non, c'est une pièce tendre, furieusement humaine, comme a dit un critique, et puis c'est une pièce où il y a beaucoup de moments de rire, effectivement.
Alors ça passe au Théâtre du Roi René d'Avignon, puisque vous étiez cet hiver au Roi René à Paris. C'est dans la salle Cour de la Reine à 15h05, il y a un jour de relâche, je suppose.
Le jour de relâche est le même pour tout le monde, c'est le mercredi au Théâtre du Roi René.
Alors Patrick, on va parler de l'écriture de cette pièce, puisque vous êtes auteur, vous jouez cette pièce et donc vous la mettez en scène. Oui. Vous êtes tout seul, hein, donc comme ça vous disputez avec personne.
Voilà, tout seul.
Et alors pourquoi vous avez écrit ce texte qui peut s'adresser à chacun d'entre nous?
Alors écoutez, ce texte est né... quelques jours après l'enterrement de ma maman, j'ai ressenti un sentiment de légèreté qui m'a fait honte. Alors je me suis posé des questions, pourquoi je me sentais léger, est-ce que j'ai mal aimé ma mère, est-ce que ma mère m'a mal aimé, enfin vous voyez. J'ai tiré le fil tout d'un coup et j'ai compris que c'est parce que tout d'un coup j'avais la permission, c'est-à-dire toutes les autorisations que je n'avais pas eues depuis ma naissance. Le spectacle commence comme ça, vous voyez, avec un thème un petit peu grave, mais toujours léger, grave et léger. Mais voilà, donc pourquoi? Et puis alors,
de fil en aiguille.
On parle de la construction de la personnalité, de fil en aiguille jusqu'aux femmes de ma vie aujourd'hui. Et il y a des moments très drôles comme mon entrée en sixième, pourquoi ma mère a décidé de m'habiller comme ça, la honte de ma vie, enfin des tas de choses comme ça qui rappellent plein de souvenirs à tout le monde.
Oui, chacun doit avoir, sinon les mêmes souvenirs, au moins les mêmes situations. Hein. Alors, vous l'avez écrite...
C'est ça. Un jour, j'avais été... Pardon.
Vous avez écrit ça dans une forme théâtrale. C'était un premier jet que vous avez adapté ou il y avait tout de suite une forme théâtrale? Vous saviez que vous alliez le jouer?
Vous êtes très forte. Eh bien non, figurez-vous que non. J'ai écrit, je me suis assis, je ne savais pas où j'allais. Je ne savais pas si j'allais le lire à voix haute, si j'allais le publier. C'est parti comme ça. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à le lire à droite, à gauche, chez des amis. Et j'ai vu que ça fonctionnait bien et que les gens riaient. Donc, effectivement, naturellement, c'est devenu une forme théâtrale. Mais pendant le confinement, j'ai écrit une version longue qui est le roman.
Ouais.
J'écris tous les soirs de 18h à minuit pendant le confinement. Et ensuite, il y a eu cette troisième forme pour le théâtre. Née des deux premières. Donc, vous avez tout à fait mis le doigt sur la chose. Et effectivement, j'ai fait beaucoup de solo dans ma vie avec les romans que j'ai adaptés. W de Georges Perec, Monsieur Butterfly de Ward Butten. Effectivement, j'ai cette aptitude du langage en solo. Mais ça reste du théâtre, hein. C'est pas du stand-up. Hein.
Oui, parce que justement, quand on est tout seul sur scène, justement, vous m'avez devancé, c'est pas un stand-up, c'est pas un one-man show, c'est vraiment du théâtre. C'est ça qu'il faut dire.
Du théâtre, c'est écrit, c'est très écrit, avec des moments, effectivement, plus ou moins légers, et puis des petits moments qui sont nés avec le public, l'exploitation cet hiver, des petites improvisations qui sont nées. C'est pas du tout, j'interpelle pas le public, mais c'est des petites improvisations qui sont nées au vu des réactions du public, vous voyez, des petits moments comme ça, qui n'étaient pas écrits, mais qui sont nés pendant la vie du spectacle.
En fait, ça doit vous faire plaisir, parce que vous sentez que le public réagit et se dit « Ah, moi aussi, j'ai vécu ça, oh, je comprends fort bien sa réaction. » Et l'importance du public, elle est là, quoi, en fait. Hein. Vous ne faites pas toujours le même spectacle, même si c'est très écrit.
Effectivement, c'est jamais le même spectacle, parce qu'il ne faut pas oublier que pour les gens, c'est toujours une première pour les spectateurs.
Et ça ne vous fait pas peur ?
Il ne faut pas qu'on oublie ça, non mais ça paraît...
Oui, je vous demandais si ça vous faisait peur d'être seul en scène comme cela, comment vous vous préparez. Bien sûr, vous connaissez votre texte par cœur, mais je pense qu'il y a un moment de concentration. Qu'est-ce que vous ressentez pendant que vous parlez ? Ça, c'est une question difficile.
Alors, écoutez, oui, non, mais je vais vous répondre avec le maximum d'honnêteté. D'abord, je rentre sur scène avec beaucoup d'amour pour les gens. Vraiment. Et c'est un travail que j'ai entamé quand je faisais ma pièce sur l'enfance handicapée, que j'ai joué beaucoup hors les murs aussi, dans des cafétérias de cliniques psychiatriques, dans des ESAT, vous voyez. Et donc, je me suis retrouvé tellement hors les murs, avec pas de loge, avec les gens qui me parlaient juste avant de jouer. Et ça m'a énormément aidé par rapport au trac. Je ne dis pas que je n'ai pas le trac, mais j'essaye que l'amour, le plaisir du jeu viennent un petit peu apaiser mon trac. Et donc... Par moment, quand je joue, et là vous êtes très forte, vous avez deviné, je me dis, vous savez, on se met un petit peu en méta, comme on dit en psychologie, on se voit vivre, on se voit jouer. Je me dis, t'es quand même un peu fou, c'est toi qui as écrit ce truc et t'es en train de jouer, t'étais pas un peu fou, mais très vite il faut revenir. Donc, vous avez tout à fait deviné. Il y a des moments comme ça un petit peu vertigineux, mais ça va à la vitesse de la lumière dans le cerveau.
Depuis le temps que vous la jouez, cette pièce, est-ce que vous y avez apporté des petites corrections ? Est-ce que vous avez rajouté certaines choses ? Ou est-ce qu'elle est comme au début ?
Non, j'ai coupé. J'ai coupé pour Avignon aussi.
Oui.
J'ai allégé et finalement ça lui donne un allègement comme...
Un dynamisme.
On jette des sacs de sable en montgolfière. Voilà, il y avait le dynamisme. Mais disons que c'est pas la même chose. Avignon, c'est un rythme. Les gens voient beaucoup de spectacles. Donc, j'ai coupé. Et puis, comme il y a des choses qui sont nées pendant l'exploitation, des petits moments d'impro comme ça, ça me permet d'avoir le temps de faire ces moments d'impro. Et puis, j'ai décidé avant-hier, mais ça, vous avez un scoop. J'ai changé la musique du début, avant-hier.
Avant-hier. Donc voilà, vous avez tout à fait le droit d'aménager. Alors je vais finir l'interview en vous demandant, vous avez toujours été heureux en amour ? Pas toujours ?
Vous avez une fois de plus raison dans votre question. Il faudrait lire pourquoi nous ne sommes jamais heureux en amour une seule fois, c'est-à-dire avec la même personne. Vous voyez ? Parce qu'on est heureux en amour, et puis les gens s'en vont, et on est malheureux. Après, on est heureux, puis on est malheureux. Et donc, la question que je pose aussi dans le spectacle, il y a des moments comme ça, un petit peu de danse dans le spectacle, il y a du rire et des moments de danse, c'est pourquoi on rencontre pas quelqu'un au début de sa vie, et puis et j'en connais qui ont réussi ça, pas beaucoup, mais j'en connais, qui ont réussi le chemin de vie total. Avec 50 ans de mariage, il n'y en a plus beaucoup, mais j'en connais. Donc, ça veut dire, voilà. Et donc, le titre, ça serait plutôt ça, mais on n'allait pas mettre le titre avec des sous-titres et des sous-titres. Mais voilà. vous l'avez perçu très intelligemment.
Donc, le titre est très, très porteur. Je vous souhaite un très bon festival et d'être toujours heureux en amour du théâtre.
Merci, j'espère vous voir bientôt.
Merci
infiniment.
Patrick,
en amour
merci.
Des gens, en amour du public, parce que c'est toujours. Voilà.
Merci
à
beaucoup.
À très bientôt. Merci
au
beaucoup.
Revoir. Bonjour Martin Kidermans.
Bonjour.
Alors, nous allons parler, enfin vous allez parler surtout, d'une pièce que vous avez écrite et que vous mettez en scène qui passe à l'Oriflamme tous les jours sauf le jeudi, donc à 17h35, dont le titre est « Mécanique d'une famille ». Et on va parler de cette pièce qui parle de ces enfants volés en Argentine. C'est une histoire presque familiale pour vous.
Alors, c'est une histoire familiale, en fait, dans le sens que je suis argentin, que ma mère est née à Buenos Aires, elle avait 21 ans au moment du coup d'État. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est très présent dans notre famille. C'est pas familial au point que nous, enfin, il n'y a pas d'enfants volés dans ma famille proche. Mais en tout cas, ça a toujours fait partie des histoires dont j'ai entendu parler pendant toute mon enfance. La dictature et les conséquences ont toujours été très présentes à la maison.
Et donc, vous avez après une autre pièce qui passe d'ailleurs aussi à Avignon, à l'Espace Alia. Vous avez donc fait cette création hein, pour le OFF 2026, Mécanique d'une famille. Et j'avoue que ce titre m'a assez interpellée, Mécanique d'une famille. Pourquoi ce titre?
Alors, le titre est en fait un jeu de mots. Si je peux me permettre, je sais pas si c'est très drôle de faire un jeu de mots là-dessus, mais le plus grand centre de détention et de torture du régime argentin, de la dictature argentine, était une école de mécanique qui a été reconvertie. Je ne sais pas
Ah,
si le mot
d'accord.
est correct. Et donc, forcément, en France, comme on ne connaît pas très bien cette histoire, et le but justement de la pièce, c'est notamment de contribuer à la mémoire de ces événements et faire connaître cette histoire un peu plus en France. Donc en France, ça ne résonne pas forcément, mais en Argentine, école de enfin, on dit mécanique d'une famille, tout le monde a tout de suite la
Tout le
référence.
monde, oui.
C'est un grand centre et c'est le centre qui est aujourd'hui devenu le lieu de mémoire.
Ah,
Donc,
d'accord.
qui a maintenant ouvert, c'est devenu à nouveau, je sais pas si musée, c'est le bon terme, mais c'est un lieu où il y a des. Voilà, un lieu de mémoire.
Moi,
Donc, c'est vraiment le symbole de la dictature, c'est l'école de mécanique en
j'avais
Argentine.
vu des reportages sur des cimetières, justement, dans des anciens charniers sur l'Argentine, et je ne connaissais pas l'histoire de cette usine de mécanique. Alors, il y a trois comédiens, deux femmes et un homme. Et moi, je pensais que mécanique d'une famille, c'était comment une famille se construit, soit parce qu'on lui a volé un enfant, soit parce qu'ils ont un enfant, mais ils ne savent pas qu'il a été volé. Enfin, peut-être que.
Exactement. C'est pour ça que je dis que c'est un jeu de mots, parce que donc c'est une référence en fait à cette école de mécanique qui est un peu le symbole absolu de la dictature, mais aussi ça veut dire ce que veut dire le titre, à savoir comment fonctionne la mécanique au sens propre, à savoir les liens qu'on a les uns avec les autres. Et ça, c'est des thématiques qu'on explorait déjà dans notre première pièce. C'est pour ça qu'au-delà du devoir de mémoire et du fait que j'ai envie de partager cette histoire et de la faire connaître ce qui s'est vraiment passé, c'est aussi des thématiques qui nous interpellent, nous, dans la compagnie, sur qu'est-ce que c'est une famille. Dans la première pièce, Fille d'Ariane, on en parlait aussi. Quand on a grandi ensemble, mais qu'on n'a pas de lien de sang, ou inversement, quand on a des liens de sang, mais qu'on ne s'est jamais connus, finalement. Est-ce qu'il y en a un qui est plus une famille qu'une autre? Enfin, il n'y a pas vraiment de bonne réponse, mais c'est des problématiques qu'on trouve extrêmement intéressantes et qui donc sont particulièrement saillantes dans le cadre des enfants volés de la dictature argentine, où c'est des gens qui ont grandi toute leur enfance dans des familles qui ne sont pas les leurs, mais qui pensaient que c'est des gens à qui on a dit que c'était l'enfant de la famille, qui ont grandi dans une fratrie qui n'était pas leur fratrie de sang, mais on leur a toujours dit que c'était le cas. Et donc, le jour où ils apprennent la vérité, pour ceux qui l'apprennent, parce qu'il y en a qui grandissent encore dans le mensonge aujourd'hui, mais le jour où ils apprennent la vérité, comment ils réagissent par rapport à cette famille
Bien sûr.
qui, on peut dire, les a aimés et les a élevés dans l'amour, du moins on l'espère, mais en même temps, on leur a menti. Est-ce qu'on peut
Non.
dire que c'est de l'amour quand on a menti pendant 20 ans à quelqu'un, quand parfois on est partiellement responsable de la mort des parents biologiques et donc du fait que l'enfant ait été volé? Donc après, tous les cas de situation existent, mais en tout cas, il y a vraiment un truc sur les liens entre ces personnes qui sont extrêmement complexes et troubles. Et c'est ça qu'on va explorer dans la pièce.
Alors vous disiez c'est un élément important de votre compagnie qui s'appelle le petit manteau jaune. Et quand je vous entends, moi je parle, vous dites qu'on ne connaît peut-être pas en France. Si, je pense que tout de même, il y a beaucoup de similitudes avec le cas des enfants volés sous Franco. Et il y a eu beaucoup de films, il y a eu beaucoup de pièces de théâtre sur les enfants volés sous Franco. Je voulais vous demander si, comme en Espagne, l'Église a été une complice vraiment du régime.
Alors, c'est une bonne question. En effet, le régime était quand même plutôt. En fait, il y avait deux pans de l'Église. on va dire. Donc il y a un pan de l'Église qui a été assez complice, on va dire. Mais il y avait aussi des personnes à l'Église. Là, je vous parle de ma connaissance. Après,
Oui, Après, il faudrait fouiller, bien sûr,
extrêmement complexe. Voilà, j'essaie de simplifier là très rapidement. Mais on peut dire en tout cas que ça restait le régime militaire assez conservateur, soutenu par l'Église et par les institutions assez traditionnelles, on va dire.
Est-ce qu'on
Mais
a
cela dit, il y a aussi des gens dans l'Église qui n'ont pas accepté ça. Et parmi les quelques disparus français connus, parce qu'il y a quand même des gens français qui ont disparu, la majorité était évidemment argentin, mais parmi les quelques disparus, il y avait deux missionnaires françaises de l'Église qui s'appellent Alice Dumont et Léonie Duquesse, si je ne dis pas de bêtises, désolé si je me trompe dans leur nom de famille, mais qui ont disparu et qui étaient religieuses. Donc,
Ouais. Mais
concrètement.
est-ce que les gens qui adoptaient savaient d'où venaient ces enfants? Parce que souvent, ça venait des enfants d'opposants politiques. Est-ce que quand on
Exactement.
adoptait, on le savait ou est-ce que c'était un déni total? Est-ce que c'était réservé à une élite, entre guillemets, sans enfants ou est-ce que vous abordez tout cela, puisqu'on parle de théâtre là, comment vous arrivez à aborder tout cela en écrivant la pièce?
Alors nous, dans la pièce, ça reste, c'est pas du tout un documentaire, c'est une pièce sur une fiction inspirée de cette histoire vraie, où donc on a un contexte avec deux femmes qui donc ont cru être sœurs et qui découvrent qu'elles ne le sont pas. Et donc elles ont une situation très particulière où les parents ont une connaissance très particulière que je ne vais pas révéler
Ben
de
non.
ce qui est l'école, etc. Mais donc nous, c'est un exemple. Après, dans les faits, il y avait un peu de tout. Ce qu'on pense, c'est que il y en avait qui savaient plus que d'autres. Il y en a qui, parfois, c'est le cas notamment de... son nom, Victoria Donda, qui est devenue députée aujourd'hui, je crois qu'elle ne l'est plus, mais en tout cas qui a eu une enfant volée et qui a fini députée, plus jeune députée de la nation, et qui elle était volée, et si je ne me trompe pas, j'ai lu sa biographie, c'est là, ils étaient très au courant, et c'est même son oncle qui a donné son aval pour l'exécution des parents, enfin, il y a des gens qui étaient particulièrement mouillés. Et c'est ça qui est intéressant, c'est quand on parlait tout à l'heure des enfants qui ont été élevés dans l'amour quand même. Mais bon, est-ce que bon, c'est de l'amour quand en fait la naissance de cette famille, c'est dû au fait qu'on a tué l'autre famille, la notion d'amour est un peu complexe.
Alors, est-ce qu'on a une idée du nombre d'enfants qui ont été volés? Parce que ça a
On est...
duré plusieurs années, hein, bien évidemment.
On estime à 500. C'est forcément assez dur à estimer. Il y a aussi des femmes enceintes qui ont disparu parce que la grande majorité, c'était des femmes enceintes qu'on gardait en qu'elles accouchent. Donc, il y a aussi des cas qui se résolvent où on arrive par un faisceau de témoignages à savoir que la mère a été exécutée avant d'accoucher. Donc, mais on
Oui.
estime à 500 le nombre de jeunes mères ou de femmes enceintes, en tout cas, qui ont disparu et donc qui ont potentiellement un enfant encore en vie pour celles dont la grossesse a pu aller à terme. Et globalement, on pense qu'il y en a une grosse portion qui est arrivée à terme, si, d'après ce que j'ai compris de mes recherches. Parce que justement, et c'est ça qui est peut-être très particulier à l'Argentine, c'est cette industrialisation un peu de vraiment, il y avait dans les centres de torture, il y avait des salles d'accouchement. À l'école de mécanique, il y avait une salle d'accouchement. Donc c'est quand même quelque chose de particulier. C'est
Alors,
pas qu'ils se retrouvaient malheureusement avec un enfant sur les bras, on va dire.
d'accord.
C'est vraiment, il y avait une volonté de garder l'enfant.
Et ben, c'est pour ça que ce mot mécanique, c'est aussi une mécanique d'une, comme vous dites, une industrie. Alors, vous, c'est une création. Il y a eu deux générales de presse. L'accueil a été bon, parce que c'est un sujet difficile.
Tout à fait. On a eu des très bons retours des professionnels de la presse qui sont venus nous voir. Là où on est assez content, c'est qu'en plus, on a l'impression dans les retours que ça correspond à ce que nous, on voulait faire.
Voilà.
C'est-à-dire que c'est une chose de savoir que la presse apprécie, mais c'est une autre de savoir qu'en plus, on a touché là où on voulait toucher, à savoir une pièce qui peut être poignante, mais sans tomber dans le pathos, et qui, à nouveau, n'est pas un documentaire. Vraiment, on suit une
Oui.
histoire, on s'attache au personnage,
C'est du
on essaie
théâtre. Voilà, c'est du
de se
théâtre.
mettre à leur place et au passage on découvre l'histoire de l'Argentine.
Ben merci à vous, donc Martin, et je rappelle, ça passe à l'Oriflamme à 17h35, Mécanique d'une famille. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, bonne journée.
Bonjour Clara.
Bonjour.
Donc Clara Jovert-Lacoste, qui est à la fois autrice, metteuse en scène et comédienne de la pièce Hubris, qui passe au Roseau Teinturier tous les jours à 14h55, je ne me trompe pas.
Tout à fait, c'est exactement ça.
Il y a une relâche, je suppose.
Oui, le jeudi.
Le jeudi. Alors, c'est la deuxième année que vous la jouez à Avignon. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée, Clara, d'écrire une pièce sur hubris, cette démesure dont on parle beaucoup dans le monde politique, mais c'est peut-être pas votre but, c'est peut-être pas votre déclencheur.
Eh bien, à l'origine, j'avais surtout lu un roman qui s'appelle Le Chant d'Achille de Madeleine Miller, et par lequel on redécouvre la guerre de Troie, donc toute l'Iliade via les yeux de Patrocle. Et j'avais trouvé ça extraordinaire de redécouvrir en fait une nouvelle facette de l'épopée à travers une nouvelle vision que de se concentrer uniquement sur les grands guerriers très connus comme Achille, Agamemnon, Ménélas. Hector, tout ça. Et puis, donc, j'ai eu envie, j'étais en dernière année de l'école du cours Florent. Et en dernière année à cours Florent, vous pouvez faire un TFE, un travail de fin d'études. Et j'ai décidé, donc, comme je savais qu'à l'issue de l'école, personne n'allait m'attendre dans le monde du spectacle, puisque je ne suis la fille de personne et que je ne connais personne, eh bien, je me suis dit que j'allais écrire ma propre pièce pour qu'elle soit, pour l'équipe et moi-même, vraiment notre porte d'entrée dans le milieu professionnel. Et donc, je m'étais dit que je voulais créer une pièce autour de l'Iliade et je ne voulais pas faire l'adaptation du roman de Madeleine Miller. Et donc, au fil des recherches, au fil de la documentation que j'ai faite pour créer la pièce, je me suis rendu compte qu'il y avait des personnages, notamment féminins, qui étaient très peu mis en lumière, voire quasiment oubliés. Et donc, j'avais plus envie d'écrire à travers leur regard et à travers une histoire plus humaine que de me concentrer sur une épopée grandiose des grands guerriers grecs et troyens. Donc, c'est comme ça que l'inspiration m'est venue.
Et donc, vous l'avez écrit sous forme de pièce de théâtre, hein, puisque c'était pour le cours Florent. Donc, vous saviez dès le départ qu'il y aurait cinq comédiens.
Non, à l'origine, je savais pas vraiment, je m'étais pas mis de limite. Et puis en fait, c'est vraiment à travers la documentation que j'ai trouvé des personnages qui étaient très intéressants et dont les destins pouvaient être entremêlés. Donc il y avait Achille, donc le grand Achille que tout le monde connaît. Patrocle, qui est aussi connu comme le loup blanc. Et puis après, j'avais surtout Briséis, une Troyenne qui sera donnée à Achille et dont il tombera amoureux, qui devient sa femme. Chryséis, qui est une Troyenne très proche de Briséis, qui elle sera donnée à Agamemnon et qui en fait va avoir les mêmes péripéties que sa sœur, mais pas la même destinée, donc elles ne vont pas faire les mêmes choix. Et puis Thétis, la mère d'Achille. Et à travers ces cinq personnages, j'ai abordé cinq thèmes. Achille, ce sera l'orgueil, Patrocle, l'humanité, Chryséis, la vengeance, Briséis, le pardon, et Thétis, la maternité. Et puis en fait, c'est ces cinq thèmes très humains, très universels et très propres à nous que j'ai écrits de sorte à ce qu'ils soient dans la démesure, dans cet acte de l'hubris,
d'où le
dans
titre.
Ce qu'il représentait.
D'où le titre. C'est vrai que hubris, c'est devenu un mot très, presque un peu galvaudé maintenant dans la politique, alors que ça a un sens très, très, comment dire, très puissant, très violent. Et c'est intéressant que vous vous intéressiez justement à cette antiquité où les actes humains sont déjà là, quoi. Je veux dire, on ne fait que projeter ce que les ancêtres ont déjà vécu.
Exactement, tout à fait. En fait, j'aime bien dire qui mieux que les Grecs pour parler de nous, finalement. Ils avaient déjà raison.
Alors, ce TFE, ce travail de fin d'études, il a été bien accueilli?
Il a été très bien accueilli. Pour faire un TFE au cours Florent, vous devez passer deux tours de sélection. Donc, nous en avions eu la chance d'avoir été sélectionnés. Et ensuite, à l'issue du cours Florent, un mois après, la compagnie avait été créée. Et quelques jours après la création, on avait signé déjà 48 dates à Paris pour justement la jouer. Et puis, au fil des dates, on a recréé Hubris, on l'a retravaillé. Il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Le spectacle vivant a bien vécu, j'ai envie de dire. Et in fine, en fait, une programmation en a amené une autre. Et puis, en fait, ça a fait l'effet boule de neige qui nous a fait venir à Avignon l'année dernière et qui a fait de nouveau cette année un nouvel Avignon. Et donc voilà, on a vraiment.
Vous êtes
On continue de jouer la pièce.
très très content. Et c'est les cinq mêmes comédiens qu'au début de la création de la compagnie?
Non, il y en
Il
a
y a
deux
ça.
originels.
Ouais.
Et puis ensuite, alors l'équipe de cette année, ce qui est marrant, c'est que nous avons deux Achilles, puisque nous avons deux comédiens en alternance,
Ouais.
Mathéo et Adrien. Et puis à l'origine, ils étaient dans Hubris en tant que Patrocle. Et pour des raisons diverses et variées, ils avaient dû quitter le projet quand on était encore à l'école. Et là, je les ai rappelés cette année en leur disant que le rôle s'était libéré. Et donc, ils ont repris Achille au Laker. Donc, on va dire qu'on se connaît déjà tous de l'école et que le destin a fait qu'on s'est retrouvés ensemble sur ce projet-là.
Et pourquoi ce nom de la compagnie Paizo, Paizo, c'est quoi? C'est un...
Ça veut dire jouer comme un enfant en grec.
Ah, comme un
Voilà.
enfant.
Et exactement, quand on cherchait un nom pour la compagnie, eh bien, on venait de faire une tragédie grecque. Et donc, en fait, on ne s'est pas tant foué que ça. On a regardé deux, trois petits trucs et on a vu jouer comme un enfant. On s'est dit que ça nous correspondait plutôt bien. Et puis, je trouve que c'est assez court, impactant. Et donc, Pézo, ça rend bien.
Alors vous avez anticipé ma question parce que je me disais, vous parlez du cours de l'étude, vous êtes donc très jeune et vous n'êtes pas la fille de quelqu'un, vous n'aviez pas de réseau dans ce métier. Et je suis très frappée par cette énergie, cette joie que vous dégagez. Vous regrettez pas vos choix professionnels puisque choisir le
Non.
théâtre, c'est une vocation.
C'est vraiment ça. Non, non, je regrette pas du tout. C'est vrai que j'aurais pu rester quand j'ai intégré le cours Florent en 2020. Je venais d'être diplômée en droit des affaires à Lyon 3 et j'avais eu une opportunité puisqu'on m'avait proposé un CDI en droit des affaires à Avignon. Et puis en fait, c'est quand on m'a proposé cette opportunité à 23 ans que je me suis retrouvée à me dire qu'en fait, c'était malheureusement pas ce que je voulais faire de ma vie. Et donc, j'ai décidé, en réfléchissant bien, en pesant le pour et le contre, de quitter le droit pour me mettre pleinement dans le théâtre. Et en fait, c'est un sacrifice, entre guillemets, qui m'a permis de savoir ce que je voulais et de me donner les moyens de réussir et du moins d'essayer de réussir du mieux que je peux avec ce que je suis et avec les gens qui m'accompagnent.
Ben, bravo à vous parce que c'est tout
Merci
un
beaucoup.
engagement, c'est toute une vocation, il y a beaucoup de difficultés, tout le monde le sait. Peut-être aussi que votre formation juridique vous aide dans tous les détours administratifs.
Oui,
Donc,
je suis contente de les avoir fait, ces 5 endroits.
ben, bravo à vous, bravo à toute la compagnie. Et donc je rappelle que Hubris se joue au Roseau Teinturier tous les jours à 14h55. Merci beaucoup et bon festival
Merci.
2026.
À vous aussi, merci, au revoir.